Bonjour Thiago, Elias, Mathis et moi-même Mathieu allons vous présenter dans des circonstances assez spéciales pour cause de coronavirus.
Stephen Hawking, le phare de Calais, SpaceX et encore plein d'autres choses.
Et maintenant, nous allons écouter Les démons de minuit de Émile et Images. Aujourd'hui, je vais vous parler des aurores boréales, ces magnifiques traînées de couleurs dans le ciel. Mais cela ne se résume pas qu'à ça, et je vais vous l'expliquer. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une aurore polaire? Une aurore polaire se caractérise par une traînée de couleurs dans le ciel. Il y en a deux types, les aurores boréales, qui se produisent dans le nord, et les aurores australes, qui se produisent dans le sud. Mais moi, je vais vous parler plus des aurores boréales. Maintenant que vous savez les bases, je vais vous expliquer comment est faite une aurore polaire. En fait, c'est tout simple. C'est la collision de particules chargées énergiquement avec des atomes en haute altitude. Le vent solaire est ensuite amené dans l'atmosphère par le champ magnétique de la Terre. Et sûrement, je pense que vous voulez savoir où et quand peut-on les voir. Et je vais vous répondre en vous disant que vous pouvez l'observer pendant des nuits noires, loin de lumière, ayant un ciel dégagé. Idéalement entre 20h et 1h du matin. Et le meilleur endroit pour les voir est l'Islande. Elles se produisent toute l'année, mais on peut les voir qu'entre le 21 septembre et le 20, ou 21 avril. Et pour finir, je vais vous expliquer de quelle couleur sont-elles. Les aurores boréales et australes sont le plus souvent vert fluorescent, orange et pourpre, avec des nuances rouges, roses, bleues et jaunes. Ces couleurs sont créées par le gaz présent dans l'air, subtil mélange entre l'oxygène et le nitrogène. Est-ce que chez vous ils ventent? Peut-être. Alors maintenant, nous allons écouter Dès que le vent soufflera de Renaud.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je...
Maintenant, je vais vous faire le top 5 des maisons les plus hantées de Suisse. 1. Le clocher du château de Lenzbourg. Si l'on croit la rumeur, le clocher du château de Lenzbourg serait hanté en effet. L'une de ses cloches sonnerait les nuits de pleine lune alors que personne n'est présent sur place. Attention, ce ne sont que des rumeurs, rien ne prouve que c'est vrai. 2. Le sanatorium de Gothard. Près de Quinto, dans le Tessin, se trouve l'ancien sanatorium du Gothard, qui servait de clinique pour les tuberculeux mais également d'hôpital militaire, déserté depuis 50 ans. Tombant en ruine, il serait un vrai nid à fantômes. Attention, ce ne sont encore que des rumeurs. Junkergas 54. Cette adresse aujourd'hui, lieu d'exposition pour les concours d'architecture, serait également hantée par le fantôme d'une femme sans tête, possédant un rire sardonique, capable de vous glacer le sang. Les fonctionnaires ayant travaillé dans les bureaux de cette adresse ne sont jamais restés le soir après minuit. 4. Le château de Roulbeau. Ne reste que la fondation et ruine du mur de château de Roulbeau, achevé en 1318 à Meunier, près de Genève, mais s'il subsiste encore quelque chose de cette bâtisse, isolée au cœur de la forêt, c'est bien la légende d'une dame blanche qui hante les lieux en attendant le retour de son mari, le chevalier Humbert de Choulex. 5. La maison hantée des Jolets à Stan, probablement le lieu réputé hanté le plus connu de Suisse. En 1850, la famille Jolère, dont le patriarche Melchior Jolère est un notable brigand, est victime d'une série d'événements étranges dans cette maison. Les meubles qui bougent seuls, les objets qui volent apparaissent d'un fantôme, les Jolères ne supportent plus les râleries des gens du village et déménagent pour Rome.
Et maintenant, vous allez écouter l'indémodable musique L'Aventurier du groupe Indochine.
Égaré
Thiago, tu savais que le phare de Calais a été construit en 1848? On y raconte qu'il s'y serait passé des choses bizarres à l'intérieur du phare. Il a été designé par Léonce Reynaud, électrifié en 1883 et automatisé en 1992. En ce jour, il n'y a plus de gardiens, mais des techniciens qui viennent voir si tout se passe bien. Tu sais ce que le phare de Calais a remplacé?
Il me semble que c'est la tour de Guel. Le phare a failli être détruit. Il me semble que c'est la tour de Guel. Le phare a failli être détruit à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et le phare est plutôt rare car il est situé près du centre-ville et d'une église. À l'époque, ils allumaient un feu au haut du phare pour les navigateurs.
En 1998, le phare a fêté ses 150 ans. Aujourd'hui, il en a 172. Maintenant, c'est l'association d'Opale qui s'occupe de la tour. Si vous voulez aller visiter le phare de Calais, il est fermé en janvier, ouvert de mercredi de 14h à 17h30 et le week-end ainsi que les jours fériés de 14h à 18h30.
Et après cette chronique, nous allons écouter Jailhouse de Elvis Presley.
Swing, you should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock.
Je vais maintenant vous parler du musée Djanada. Le musée Djanada se trouve en Suisse, plus précisément à Martigny. Léonard Djanada est né le 23 août 1935 à Martigny dans les cantons du Valais. En 1973, il décide de construire un immeuble de 16 étages. Avant d'autoriser les travaux en 1976, pendant ces travaux, il trouve un temple sous plusieurs mètres de terre et il décida de trouver une solution pour entretenir ce temple. Car il adora l'archéologie, il décida de bâtir un musée. En août 1976, Léonard décide de dessiner les plans de la fondation Djanada. Le 24 février 1977, le musée est bâti et le 19 novembre 1978, le musée Djanada est inauguré et ouvert au public en 1981. Là-bas, on peut y trouver principalement le musée de l'automobile où sont exposés plein de sortes de voitures telles que des Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Alfa Romeo. Merci de m'avoir écouté. We'll be right back.
up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu partout. C'est comme un volcan. Ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique.
Vous allez écouter Je joue de la musique de Calogero. Maintenant, je vais vous présenter SpaceX, cette grande entreprise. Mais je vais d'abord vous expliquer qui est son patron. À la base de SpaceX, on retrouve l'inévitable Elon Musk, l'ingénieur d'origine sud-africaine qui revend PayPal au début du siècle et devient milliardaire. Il ne compte pas passer sa vie à ne rien faire et se fixe rapidement un objectif, Mars. Il fonde son entreprise SpaceX pour à terme coloniser Mars. Maintenant que vous savez tout cela, je vais vous parler de ses idées. Et pour commencer, je vais vous parler de ses fusées artisanales. Car l'un des nombreux objectifs d'Elon Musk est de démocratiser les voyages spatiaux et les rendre accessibles à tous. Pour y arriver, il faut donc réduire les coûts de fabrication des fusées. Donc au lieu d'aller acheter des pièces à droite à gauche, les employés de SpaceX construisent tout eux-mêmes. Ils vont même jusqu'à développer leur propre logiciel de simulation de dynamique des fluides pour affiner toutes leurs simulations. Alors, Elon Musk et ses hommes commencent à développer le Falcon 1, un lanceur réutilisable capable d'envoyer des appareils en orbite autour de la Terre. Après plusieurs échecs, Elon Musk réussit à envoyer le Falcon 1 dans l'espace en 2008. Et un an plus tard, il met son premier satellite en orbite. Et une autre de ses idées est de faire des fusées réutilisables, toujours dans l'optique de réduire au maximum les coûts. SpaceX et Elon Musk veulent créer les premières fusées réutilisables. Enfin, elles ne le sont pas entièrement réutilisables. Ce sont les lanceurs qui le sont. Le but est de lancer une fusée en orbite et que les lanceurs reviennent se poser sur Terre. Il a fallu de nombreux essais pour y arriver à un résultat concluant. À chaque fois, les lanceurs arrivaient beaucoup trop vite vers la zone d'atterrissage et ne survivaient pas à l'opération. Mais le 21 décembre 2015, SpaceX réussit son pari en faisant atterrir pour la première fois un engin spatial. Par la suite, il y a eu d'autres essais peu concluants, jusqu'à avril 2016 et mai 2016, où la fusée se pose sans dommage sur les plateformes maritimes de SpaceX. Le dernier succès en date est le 6 février 2018, quand Elon Musk envoie la fusée Falcon Heavy en orbite. Les deux propulseurs d'appoint sont revenus sur Terre alors qu'ils étaient à 60 km d'altitude, avec une vitesse de 690 km/h. Par contre, le premier étage central de la fusée doit effectuer la même manœuvre, mais ils n'ont pas pu réduire suffisamment sa vitesse. Il finit donc sa course dans l'océan en percutant l'eau à une vitesse de 480 km/h. Ce n'est pas encore parfait, mais les ingénieurs de SpaceX se rapprochent un peu plus de leur but à chaque essai. Et pour revenir à ce que je disais au début, les projets les plus excitants d'Elon Musk et SpaceX sont évidemment tous ceux qui tournent autour de Mars. Elon Musk l'a annoncé, son but est d'amener des humains sur Mars au milieu des années 2020, même si cela peut être un peu retardé. Pour préparer ces véritables voyages, il compte envoyer les premières fusées sans pilote vers la planète rouge d'ici 2022. Pour atteindre Mars, Elon Musk compte sur sa BFR, ou Big Fucking Rocket, une énorme fusée réutilisable, d'où l'importance des essais. Dans cette fusée, 40 cabines pouvant accueillir 2 à 3 personnes seront disponibles. En tout, une centaine de personnes pourront embarquer dans l'engin de 150 tonnes. De plus, des navires citernes, eux aussi recyclables, seront en orbite de la fusée pour pouvoir l'alimenter en carburant pour que la fusée puisse parcourir les 75 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars. Mais avant d'accueillir les humains, il faut un minimum d'infrastructures sur la planète. Donc en 2022, Elon Musk prévoit d'envoyer des vaisseaux cargo pour localiser les sources d'eau. Merci d'avoir écouté ma chronique. Et bien sûr, maintenant nous allons écouter « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman.
Tu savais que Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford? Cependant, je sais pas quand il est mort.
Il est mort le 14 mars 2018 à Cambridge.
En fait, il a fait quoi dans sa vie?
Il est théoricien de renommée mondiale.
Il me semble aussi qu'il était professeur.
Il était professeur dans tout ce qui touche à l'espace à l'université de Cambridge de 1980 à 2009.
Il enseignait quoi à l'université?
Il était connu pour ses contributions dans le domaine de la cosmologie et de la gravité, en particulier dans le cadre des trous noirs.
Il a pas fait un truc en rapport avec les trous de ver?
Oui, il a découvert les trous de ver, des raccourcis dans l'espace-temps. Cette théorie est rapidement reprise par les médias et vulgarisée, mais rien ne prouve que ces trous de ver existent.
Mais il avait pas une maladie, en fait?
Depuis l'âge de 20 ans, Hawking souffre d'une forme rare de... forme rare de début précoce et d'évolution lente, et qui progresse au fil des ans au point de le laisser presque complètement paralysé.
Tu savais que les planètes se sont formées en même temps que le Soleil?
Bah oui, c'est normal, non?
Normal. Dans quel sens?
Bah tu sais, il y a 4,5 milliards d'années, les poussières...
Puisque t'es monsieur, je sais tout, alors vas-y, lisse-moi les planètes solaires.
Les planètes, même toi tu les connais. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est bon, t'es content?
Ouais, et c'est quoi un corps céleste?
Un quoi?
Un corps céleste, la définition d'une planète qui gravite autour d'une étoile.
Bah tu vois, je connais pas tout, même toi non plus.
Quoi, moi je connais pas tout? Eh, moi je te dis que je connais tout!
Alors c'est quoi Trappiste 1?
C'est un système solaire où il est soi-disant possible de vivre sur une de ces planètes.
Eh oui, tu t'en rends compte, si notre planète elle explose, on a un autre endroit où aller.
Ouais, mais si elle explose et on n'est pas encore parti, ça va pour aller.
Ouais, mais sur Trappiste 1, on peut y vivre normalement.
Normalement. Normalement.
Merci de nous avoir écoutés.
Maintenant, nous allons écouter Yellow Submarine des Beatles.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Maintenant, je vais vous parler de la Voie lactée. La Voie lactée est le nom de notre galaxie. Elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière et contient 100 à 400 milliards d'étoiles. Depuis la Terre, on ne peut observer qu'une coupe transversale de la Voie lactée, épaisse de 1 000 à 3 000 années-lumière. Galilée a observé en 1610, grâce à ses lunettes astronomiques, que cette traînée blanchâtre est en fait une région dans son étoile. Invisible à l'œil nu, plus tard, la structure de la galaxie a été progressivement révélée entre 1918 et 1928 par Arlo Chapley. Jean Hort et Bert Lindbald, le premier comprend que la Voie lactée est un disque et repère son centre situé dans la constellation du Sagittaire. Les deux autres astronomes montrent que les étoiles tournent autour du centre galactique rapidement au voisinage du centre, plus lentement en périphérie.
Au revoir, merci de nous avoir écoutés.